Radio Kapi.
Le journal, Justine Moussa Oponde. Embouteillage persistant à Kinshasa, la police militaire est désormais déployée au Grand Carrefour pour appuyer les policiers de circulation afin de mettre fin au stationnement anarchique et désengorger la capitale. En raison de l'insécurité et de l'absence des partenaires, les structures sanitaires dans les 20 aires de santé de Kibwa à Walikale sont en rupture prolongée de médicaments, une situation qui complique la prise en charge des malades. Le médecin-chef de zone lance un appel pressant aux partenaires et aux autorités sanitaires. L'invité du journal est Christian Moleka, analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC. Il décrypte les enjeux autour des pétitions contre des membres du bureau de l'Assemblée nationale rejetés récemment. Bonsoir à tous. La police militaire vole au secours des policiers de circulation routière sur certaines artères de Kinshasa. Les PM, comme on les appelle, sont déployés depuis ce lundi matin pour mettre de l'ordre et ainsi réduire tant soit peu les embouteillages. Ils sont entre autres présents à Kintambo Magasin et Sosimat, ainsi qu'au rond-point Huileri, pour ne citer que ces carrefours. Cette présence fait suite aux instructions du chef de l'État lors du Conseil des ministres du 19 septembre dernier. Le Conseil avait aussi mis l'accent sur l'interdiction des stationnements anarchiques. Comment cette mesure est-elle appliquée sur terrain et quel est l'impact de cette présence militaire sur les artères de la ville? Reportage de Lakinzao et J.R. Kabamba.
À Kintambo Magasin, la station totale longeant l'avenue Colonel Mondjiba est dégagée de tous les taxibus qui y embarquent habituellement pour les grands marchés. Il est 8h à notre arrivée sur ces lieux. On peut apercevoir des éléments de la police militaire en gilet orange flambant neuf avec mention PEM au dos suivi d'une numérotation. Ils sont en train de chasser tout véhicule stationnant de manière anarchique. Nous sommes ici depuis 7h30 à laisser entendre un capitaine PEM commis à cette tâche. La situation est la même au rond-point Huileri. Ceux qui créent des bandes supplémentaires sont priées d'opérer un demi-tour. Certains usagers de ces tronçons apprécient, mais déplorent la brutalité qu'ils subissent. Écoutons ces motards.
Ici, tire à 109 pour arrêter. Donc, ils arrêtent avec des brutalités. Voilà pourquoi ils créent toujours des embouteillages. Le gouvernement trouve la solution.
Pour ces taximens, les lieux de stationnement posent problème.
Ici, à Kitambo Magasin, on nous chasse, mais il n'y a pas aussi de parking aménagé pour notre stationnement. On doit juste nous aligner en ordre au lieu de nous chasser.
Signalons par ailleurs que la création des parkings modernes dans la ville figure parmi les instructions données par les chefs de l'État.
En Ituri, le taxi-moto est devenu le moyen de transport le plus utilisé, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales enclavées. Pour beaucoup des jeunes, c'est une activité de survie qui permet de faire vivre leur famille malgré des conditions précaires et de nombreux risques. Jean-Claude Okidile est allé à la rencontre de ses conducteurs. Voici son reportage.
Le taxi-moto s'est imposé comme le moyen de transport le plus populaire dans la ville du Bounia. Des milliers de jeunes tentent de s'en sortir. Piero Langalanga conduit sa moto-taxi depuis près de 20 ans.
Moi, j'ai choisi ce métier. Ça m'aide pour nourrir mes affaires, juste pour payer la collation. On gagne, mais pas tellement. Hein.
Pour les habitants, leur rôle est devenu incontournable.
Dans des endroits, par exemple, inaccessibles, là où le véhicule ne peut pas arriver, on voit toujours le motard transporter les cadavres jusqu'au niveau de la morgue ou soit au lieu de la famille.
Mais l'activité reste risquée. Bati Mugavu, motard depuis 6 ans, évoque les dangers quotidiens.
Avant, c'était facile de parcourir presque partout où vous voulez, mais cette fois-ci, c'est trop grave vu les sécurités.
Face à ce constat, certains appellent à mieux encadrer le secteur. Bati Manganga, conseiller communal à Bounia.
Quand il y a des jeunes gens, au lieu d'aller voler, au lieu d'entrer dans les groupes armés, se démènent pour voir comment aider sa famille. Moi, je pense que l'État à l'obligation d'accompagner la jeunesse.
En attendant, les taxis-motos continuent de circuler chaque jour, transportant élèves, commerçants et malades. Un métier vital pour l'Ituri, mais encore marqué par la précarité et la sécurité. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilet, Radio Kapi.
Dans la province de Lomami, 2 mois seulement après le remplacement de l'ancien pont Kamutambai par le nouveau pont entièrement métallique, des personnes non identifiées se livrent au détachement de certains boulons de cette infrastructure routière. Cette information livrée par l'administrateur du territoire de Lulu a été confirmée par le directeur provincial de l'Office des routes, Lomami. Une équipe a été déployée pour renforcer le pont et prévenir tout risque d'effondrement. Esther Dalafina nous en dit plus.
Le pont Kamutambayi relie les localités de la chefferie de Kachisungu à Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu, sur la route provinciale 819. Il facilite les échanges commerciaux et l'évacuation de produits des champs de la chefferie de Kachisungu vers Mweneditu et Mbujimai, les centres de consommation. C'est depuis près de 2 semaines que les personnes non autrement identifiées se livrent aux actes de sabotage de ce pont, a affirmé l'administrateur du territoire de Lulu.
Nous avons déplacé le poste de la police qui était dans un village, alors nous les avons commis au pont pour la surveillance des ponts.
Ingénieur Bravo Ngoy, directeur provincial de l'Office des routes, confirme ces actes de sabotage.
Des inciviques ont enlevé 18 boulons sur le pont, matière que nous venons de lancer il y a à peine un mois, et puis ils ont desserré d'autres boulons, ce qui fait que l'ouvrage était en déséquilibre.
Une équipe a été déployée sur place pour les travaux de remplacement des boulons. Ingénieur Bravo Ngoy appelle la population et les autorités à la protection de cet ouvrage.
À notre niveau, nous allons faire des dispositifs en sorte que on puisse souder certains endroits où ils sont en train de faire sortir les boulons. Mais il faudrait que la population locale et les autorités coutumières puissent protéger cet ouvrage.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, Nord Kivu, la zone de santé de Kibwa, dont le territoire de Walikale connaît des difficultés de fonctionnement. Ceci est consécutif à la rupture des médicaments essentiels dans toutes ces 20 aires de santé depuis plusieurs mois. Le médecin-chef des zones de santé de Kibwa lance un SOS auprès des partenaires d'appui et autorités sanitaires. Yves Tsongo plaide en faveur d'une aide d'urgence en médicaments pour la prise en charge des patients. Plus de détails avec Baben Pongo Massimango.
Les 20 aires de santé de la zone de Kibwa sont en rupture d'approvisionnement en médicaments depuis qu'elles ne sont plus appuyées par leurs partenaires, dit le médecin chef de zone. Pour lui, l'ONG Première Urgence, par exemple, qui a appuyé au moins 8 aires de santé, n'accède plus à la zone depuis 2024. Une situation due, selon lui, à l'insécurité, l'inaccessibilité des routes, exacerbée par l'avènement de la rébellion de l'AFC M23 dans la zone. Du coup, la prise en charge des malades, en particulier des personnes vulnérables, pose problème. Dr Yves Tchongo lance un SOS auprès des partenaires, mais aussi auprès des autorités sanitaires pour un appui à la zone de santé de Kibwa.
Aujourd'hui, beaucoup de la population est déplacée. Certains commencent à retourner, mais sont démunis de moyens pour payer les soins au niveau des centres de santé. Alors, les responsables des établissements de soins ont difficile aussi d'assurer le fonctionnement des structures en s'approvisionnant en médicaments. Alors, nous lançons un SOS auprès des partenaires pour voir comment arriver à appuyer cette zone de santé.
Docteur Yves Tchongo ajoute que plusieurs déplacés commencent à retourner dans la zone, mais ils sont démunis et manquent de moyens pour payer les soins médicaux auprès des structures sanitaires. Il signale aussi que des cas de paludisme, de gale et de diarrhée sont les plus fréquents dans ces structures sanitaires.
La population de la province de la Tchopo doit s'impliquer dans la sécurisation de la ville en luttant contre toute infiltration de l'ennemi dans cette entité. Ce message est du général de brigade Jean-Daniel Batabombi, premier commandant adjoint chargé de l'éducation civique et patriotique à l'état-major général des FRDC. C'est à l'intention des taximens moto et des cadres territoriaux. Il leur a transmis ce message ce lundi, respectivement à la place des Martyrs et dans la salle de réunion de la mairie de Kisangani. Le point avec Jacques Mkonkole.
Ils étaient nombreux à la place des Martyrs, les taximens moto venus écouter le général Jean-Daniel Batabombi Panza. Le chargé de l'éducation civique et patriotique des FRDC n'avait qu'un seul message à leur égard, à savoir transmettre l'information sécuritaire en temps réel aux autorités tant civiles, policières que militaires. Ceci afin d'empêcher l'extension de la rébellion dans cette entité. Le général les exhortait donc à la collaboration sans laquelle il serait difficile d'échapper à l'infiltration. Par ailleurs, le même message est transmis au bourgmestre, chef de quartier et d'avenue de la ville de Kisangani.
Tout en refusant ce qui se passe au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous vous demandons également d'être vigilants et de refuser que cette question de la rébellion puisse s'étendre dans la province de la Tchopo. Et je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Il faut être vigilant. Vous avez des responsabilités. L'armée compte sur vous. Vous pouvez aussi compter sur votre armée.
Les taximen moto, les bourgmestres et leurs collaborateurs disent avoir compris ce message. Ils souhaitent que la collaboration soit franche entre eux et les autorités. Ils ont par ailleurs dénoncé les tracasseries militaires et policières et parfois le manque de matériel pour les administratifs en vue de mieux exercer leur travail. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le phénomène Mobondo dans le territoire de Kwamout, les conflits communautaires à Bolobo et Yumbi, ainsi que le différend lié aux limites entre les territoires d'Inongo et de Kiri, sont des problèmes parmi tant d'autres à la base des tensions dans la province de Maïndombe. Ils ont été identifiés et passés en revue hier dimanche à Inongo au cours d'une réunion du Conseil provincial de sécurité présidé par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, en séjour dans la région. On écoute le gouverneur de Maïndombe, Nkosso Kevani, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Nous avons également parlé de tout ce qui cadre avec l'instrumentalisation de la jeunesse, l'appel de la jeunesse à désobéir aux ordres qui sont donnés au niveau de la province. Mais ce qui est plus important, c'est que le chef nous a donné des orientations. Le chef voudrait bien que les filles et fils du Maïndombe puissent se réconcilier entre eux et surtout les notables de la province, les leaders de la province, les leaders politiques de la province, se doivent de se parler, se doivent se réconcilier ici dans la province du Maïndombe de manière à ce que nous puissions voir les choses dans la même direction. Bien sûr, il a aussi dit que dans cela, la justice doit également faire son travail, c'est-à-dire tout celui qui est dans les collimataires de la justice doit répondre de ses actes devant la justice. Mais la réconciliation entre filles et fils du Maïndombe vaut quand même son pesant d'or, que cela puisse se tenir ici au chef-lieu de la province.
Rendons-nous à présent à Lubumbashi, où certaines boulangeries fabriquent du pain dans des conditions insalubres. Un constat fait le week-end par le maire de la ville après la visite de ces boulangeries. L'autorité urbaine a ordonné à ses services de sceller ces boutiques de pain pour non-respect des mesures d'hygiène. Paul Amunanga nous en parle.
Les deux boulangeries visitées par le maire de Lubumbashi sont situées dans les environs du marché Mimbulu, au niveau de Machipicha à Lubumbashi. L'extérieur de ces boutiques de pain offre une bonne image, mais à l'intérieur, les normes sanitaires requises sont loin d'être respectées. D'après des témoins, les matériels utilisés pour la fabrication du pain sont crasseux. Des pâtes pour faire cet aliment sont conservées dans un environnement malsain. Placées à même le sol, ces pâtes sont envahies par des mouches et commencent déjà à se détériorer, rapportent des témoins. Ces mélanges seront mis dans des fours pour la fabrication du pain ou autres pâtisseries destinées à la consommation humaine. L'eau qui est utilisée pour faire le mélange de ces pâtes n'est pas propre. Même les agents qui fabriquent le pain ont un aspect qui ne rassure pas sur le plan hygiénique, remarque le maire de Lubumbashi. Patrick Kafuimbi souligne aussi que la propreté des toilettes est négligée. Face à cette situation, le maire de Lubumbashi a ordonné à ses services de sceller ses boulangeries. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, plusieurs quartiers situés le long de la route Sekomaf, dans la partie Njili ou Kimbanseke, servent de sites de maraîchage. C'est le cas de Terre Jaune, Essanga, Mosengo et Salongo. Les maraîchers disent trouver dans cette activité de quoi subvenir à leurs besoins, se nourrir et scolariser leurs enfants. Toutefois, ils sont butés à certaines difficultés. C'est notamment celle liée à l'accès à l'eau et à des menaces de déguerpissement. Ils lancent un appel aux autorités car cet endroit représente leur seul moyen de survie. Gloriane Lepea les a rencontrés. Elle nous fait le point.
Lorsqu'on se rend sur cette partie de la route Sekomaf, on est émerveillé par les étendues vertes qui s'étalent à longueur de vue. Il s'agit des plates-bandes de légumes, aubergines, gombo, choux et autres. Ces terrains sont exploités par les propriétaires eux-mêmes ou loués par de tierces personnes. Les maraîchers disent trouver dans cette activité de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Sylvie Ndombasi.
Ces champs est notre gagne-pain. Je nourris mes enfants avec ces travaux de champ.
Toutefois, pour Emérance Nzaïlou, maraîchère, l'activité agricole est à double tranchant. Si elle permet de nourrir plusieurs, elle reste difficile à exercer sans appui. Elle plaide pour un accompagnement des autorités.
Ces travaux nous fait vivre, mais nous souffrons. Nous avons besoin de soutien car nos productions nourrissent la population congolaise. L'accès à l'eau nous fait le plus défaut. Que les autorités aident les maraîchers.
Autre problème, c'est les risques de dépossession de ces terres, explique Noël Malinga.
On menace de nous déloger de ces sites pour en faire un dépotoir. Aidez-nous qu'on ne nous ravisse pas ces lieux.
Ces cultivateurs appellent les autorités à intervenir pour sécuriser cet espace vital pour eux.
Actualité internationale.
L'immense incendie ayant ravagé un tiers du parc national d'Etosha en Namibie est désormais contenu, a assuré ce lundi la ministre de l'Environnement à la télévision publique NBC après avoir survolé cette réserve naturelle parmi les plus réputées au monde. Les immenses panaches de fumée photographiées du ciel au cours du week-end et qui menaçaient les 114 espèces de mammifères dont le rhinocéros noir en danger critique d'extinction se sont dissipés.
L'invité.
Notre invité est Christian Moleka, analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC. Il nous aide à mieux comprendre les enjeux autour des pétitions à l'Assemblée nationale récemment rejetées par le bureau. Selon lui, Vital Kamerhe semble avoir été la cible principale, même si certains membres du bureau auraient bénéficié de soutien interne à l'Union sacrée, leur évitant ainsi la destitution. Christian Moleka s'entretient avec Grace Hamzati.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Les pétitions visaient 5 membres du bureau, 2 ont démissionné et 3 ont été sauvés.
Bon, la première lecture qui peut se dégager, c'est que l'on peut penser que la cible principale était Kamerhe et que celle-ci étant atteinte, les objectifs ont commencé à diverger. Ensuite, il est très probable que les autres membres du bureau ont reçu un soutien soit d'une partie des pétitionnaires, soit de quelques cadres au niveau de l'Union sacrée pour qu'il n'y ait pas cette évolution. Et donc, on peut dire que la motion de départ n'a pas atteint finalement les objectifs recherchés, si ce n'est que politiquement, ça a peut-être réglé le problème de la cible principale qui était Kamerhe.
Nous avons vu lors de la plénière que certains députés, dont les pétitionnaires, contester justement cette décision de la plénière, disant que la procédure n'a pas été respectée.
Il est très probable qu'on ait d'autres lignes de friction. Certains semblent même vouloir s'attaquer au premier vice-président Tshilombay, sur qui on mettrait la responsabilité de l'issue de la pétition. Mais il est probable que cette division a fragilisé le camp des pétitionnaires et ne va pas favoriser la sérénité au sein du Parlement, puisqu'on a une majorité qui a aujourd'hui plusieurs lignes de friction et qui, même pour l'élection à venir, sera source de tension.
Quel peut être l'impact de cette crise à l'Assemblée nationale sur le fonctionnement d'abord de cette institution, mais aussi sur les attentes de la population en ce qui concerne cette session budgétaire?
Déjà, la première cause, c'est que vous avez un Parlement qui est en pleine session budgétaire et qui met la priorité sur l'agenda politique. Deuxièmement, c'est que le président qui devra remplacer Kamerhe sera forcément sous pression à la fois des pétitionnaires, d'une plénière qui a posé beaucoup de revendications en termes d'amélioration des niveaux de vie et des rémunérations. Et donc, on peut aller vers un bureau qui sera sous chantage et qui aura beaucoup de mal à gérer cette plénière dans la sérénité. Et donc, cela va impacter à la fois les capacités de contrôle parlementaire, les capacités du bureau d'organiser le leadership du débat parlementaire. Et on aura donc peut-être un bureau encore plus fragile et qui ne va pas avoir assez de liberté pour gérer avec efficacité l'Assemblée nationale. Parce qu'un Parlement qui est en crise n'a plus les capacités de contrôler l'exécutif. Or, l'exécutif a besoin d'avoir de garde-fous, autant pouvoir lui-même rester conforme à ses ambitions, mais également pour pouvoir avoir une forme de chien de garde qui lui rappelle à chaque fois qu'il se trompe des voies. Et donc, un Parlement qui ne perd sa capacité de contrôle fragilise également l'efficacité de l'action gouvernementale. Et deuxièmement, c'est que vous avez une population qui se sent de moins en moins concernée par le débat institutionnel. Et donc, l'une des conséquences, c'est ce renforcement du fossé de confiance entre les citoyens et les parlements ou les institutions.
Qu'est-ce qui peut justifier que cette crise se passe au sein de la famille politique appelée Union sacrée de la nation?
C'est qu'on peut, à la lumière de ce qui s'est passé, constater qu'il y a énormément de lignes de friction malgré l'apparence unité au sein de l'Union sacrée et que malheureusement ces différentes frictions pourront être source de frustration et en politique les frustrations peuvent générer soit des départs, soit des dislocations, des tensions au sein de cette famille politique-là. Même si aujourd'hui tout semble confirmer la loyauté au chef de l'État, mais il est très probable que dans les années à venir, ces genres de crises favorise soit des départs, tout du moins des tensions plus grandes entre différentes parties prenantes de l'Union sacrée.
Qu'est-ce que vous proposez pour que cette crise soit dénouée et que les députés nationaux se focalisent sur ce que vous appelez priorité pour la population?
Il faudra rapidement déjà remplacer ceux qui ont été éjectés ou qui ont démissionné pour que cette phase soit terminée et que les députés se consacrent finalement aux questions de fond. Mais on connaît le jeu congolais, donc on perdra beaucoup de temps pour gérer les ambitions des uns des autres et de pouvoir avoir finalement ce bureau complet. Après, c'est qu'il faut que les députés eux-mêmes reviennent à la conscience. Nous avons un accord de Washington qui n'a pas été ratifié au niveau du Parlement. Nous avons une situation sécuritaire et un accord de Doha qui est en train de patiner. Nous avons des cas de décès à Beni, Lubero, l'état de siège et non moins de priorité. Il faudrait que les honorables reviennent à l'essentiel. Et donc, si on n'a pas des élus qui reviennent vers ses missions principales, nous aurons un Parlement qui pourra perdre son temps dans des manœuvres politiciennes jusqu'en décembre.
Christian Moleka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et ce journal est fini. Il a été coordonné par Richard Junior Kamonga sous la supervision de Poli Mouzalia. La mise en onde est assurée par Billy Landry. Bétou, réécoutez-le sur notre site internet radiookapi.net.